Comment rendre nos relations fraternelles vraiment ancrées en Christ? Comment faire pour que, en tant que frères et sœurs, dans l'Église et dans la communion avec d'autres frères et sœurs des autres églises, comment magnifier nos relations? Comment les sublimer, les rendre meilleures possibles? Comment faire en sorte que nous vivions une vraie fraternité? Il y a plusieurs réponses à la Bible. Il y a plusieurs pistes par lesquelles nous pouvons passer. Mais ce matin, je voudrais proposer une piste simplement, une simple piste très intéressante, mais qui permettra que nous puissions ensemble nous entourer et avancer comme des compagnons de route. Ouvrons notre Bible, nous allons, avant de prier, lire l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 6, du verset 1 au verset 10. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde à vous-même, à toi-même, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne le fasse, à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Je répète les deux versets, les deux derniers versets que je pense être vraiment le cœur de ce texte. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons encore, nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Prions. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par ta parole. Ta parole nous libère, libère-nous par ta parole. Ta parole nous affermit, affermis-nous par ta parole. Ta parole nous enseigne, enseigne-nous par ta parole. Au nom de Jésus, amen. Le titre c'est donc « Comment magnifier nos relations chrétiennes ?» ou comment sublimer nos relations fraternelles en Christ. Hier, j'étais à un enterrement. L'enterrement d'un monsieur qui a 78 ans, c'est un Africain. Et bon, 78 ans en Afrique, c'est un bel âge pour mourir. En Europe, 78 ans, on se pose encore des questions, parce qu'à 78 ans, on peut encore être actif. Ce monsieur est décédé, et c'est une relation de ma famille, c'est un ami. La famille est très liée avec ma famille. Le prêtre, dans son homélie, parce que monsieur est catholique, a dit que nous sommes sur la terre pour accomplir quelque chose. Je suis d'accord avec lui. Et il dit aussi une autre chose. Il dit que nous sommes ici sur la terre pour être des porteurs de l'évangile, des porteurs des bonnes nouvelles. Ça, je suis d'accord avec lui aussi. Et il dit, notre vie laissera après nous des traces sur le fait que nous avons été fidèles ou pas par rapport à notre travail de porter l'évangile. Notre vie laissera des taches, des traces. La façon dont nous vivons, lorsque nous partirons, laissera des traces. Les gens nous décriront. Ah, il était comme ça. Il faisait ceci, faisait cela, n'aimait pas ça, aimé ceci, etc., etc. A fait des belles boucles dans sa vie. Vous savez, cet homme, il était terrible. Mais vous savez, cet homme, waouh, respect, quoi. Bien sûr, je vous parle comme ça parce que j'étais à un enterrement et que j'ai vu une personne qui décède. J'ai entendu tout le témoignage qui se disait derrière pour tout ce qu'il a fait. Et je me suis posé la question, n'est-ce pas ce que nous aimerions nous aussi? Qu'un jour, nous aussi, en tant que chrétiens, lorsqu'on ne sera plus là, que nous laissions des traces, nous laissions des preuves, des éléments, des témoignages de notre vie qui manifestent que nous avons été des porteurs de l'Évangile, que nous avons été des gens qui ont aimé le Seigneur. Pour me rattacher à cet épître de Galates, le texte auquel je fais référence, j'aimerais dire que notre marque que nous sommes appelés à laisser après nous en tant que chrétiens, le mode de vie que nous sommes appelés à vivre ici sur la terre, d'après ce texte, un des éléments, c'est de faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres au nom de Jésus. En tant que racheté par Dieu, notre vie doit exprimer la recherche du bien pour les autres. Quelle trace voudrais-tu laisser après ta vie? Juste qu'on dise que tu es un bon chrétien, ça veut dire quoi être un bon chrétien? Ça ressemble à quoi un bon chrétien? Est-ce que c'est ce chrétien qui est fidèle à l'église tous les dimanches, tip-top, à 10h pile, il est là, assis? Est-ce ça un bon chrétien? Est-ce un bon chrétien, c'est celui qui a une liste incroyable de choses à faire et qu'il respecte? Il ne doit pas rire quand les autres pleurent. Il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça. Pourtant, il doit faire ça, ça, ça. Et il les observe d'une manière. Est-ce ça un bon chrétien? Alors, dans ce cas-là, nous sommes des bons copains des pharisiens. Vous êtes d'accord? Très bon copain. Nous, les pharisiens, nous sommes des copains. Or, il y a un problème, il y a un stut. Dans ce texte, dans cette épître de Galates, il y a un stut. Parce que justement, Paul combat les pharisiens. Il combat la mentalité pharisaïque. Est-ce un bon chrétien? Est-ce que c'est celui qui est quelqu'un qui fait, qui a une apparence de type bien? Dans ce texte, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui fait aussi du bien. C'est celui qui recherche le bien pour les autres, qui pratique l'amour du prochain. L'amour envers ses frères. Le chapitre 6 de Galates auquel nous faisons allusion, c'est le dernier chapitre de cet épître. Dans cet épître, dans ce dernier chapitre, Paul s'adresse, donc, en fait, si on doit d'abord prendre l'ensemble de l'épître, donc, je rappelle simplement que le message global dans l'épître de Galates, c'est que Paul, l'apôtre, met en garde les Galates par rapport à des déviations doctrinales, spirituelles, des déviations. Les Galates qui se sont convertis à la foi chrétienne se retrouvent en train de commencer de plus en plus à retourner dans les pratiques judaïques, la circoncision, les purifications, etc. Et donc l'apôtre Paul leur dit non, vous n'avez pas compris la bonne direction dans laquelle il faut aller. C'est pas par là qu'il faut aller. Donc il met en garde contre le danger du légalisme. C'est-à-dire le retour des pratiques consiste à observer la loi en croyant que c'est la loi qui sauve, en croyant que nous sommes sauvés par la loi. Paul leur démontre que le salut vient par la grâce, au moyen de la foi. La vie chrétienne est une vie de liberté. Ça, c'est aussi un mot qui est un mot-clé de l'épître de Galates. Liberté. La vie chrétienne est une vie de liberté. Le chrétien a été racheté. Il a été racheté de l'esclavage du péché. Et il est donc libre. Libre de la malédiction du péché. Nous l'avons lu en Galates 3, chapitre 13. libre de la malédiction du péché, libre de l'esclavage du péché. La loi, elle sert à nous conduire à Christ. Là aussi, Paul remet les pendules à l'heure en expliquant qu'attention, si vous êtes, vous observez toutes les lois en croyant que ça va vous sauver, vous vous trompez, parce que la loi, c'est pas sa fonction. La fonction de la loi, c'est de montrer que nous sommes pécheurs, de montrer que nous sommes incapables de sortir de l'emprisonnement du péché, de l'esclavage du péché. Nous sommes incapables. La loi, elle est là aussi pour montrer que il y a juste une issue, juste une petite porte pour sortir de l'emprisonnement du péché. C'est Christ. La loi pointe Christ. Ça, c'est ce que l'apôtre essaie d'expliquer, de rendre compte dans l'épître de Galates. Et il va plus loin. Il dit que non seulement il faut comprendre la mesure du salut et mettre le salut sur les rails de la grâce, les rails de la liberté, mais cette liberté ne doit pas être vécue n'importe comment. Je suis affranchi des péchés, je suis devenu libre, c'est pas pour vivre n'importe comment. C'est pour que je vive selon Dieu. Mais vivre selon Dieu, comment pourrais-je, moi, homme charnel, en avoir les capacités? Je peux pas. Je suis un être humain. Je sais pas pouvoir vivre la vie chrétienne tout seul. C'est là que Paul introduit une dimension, et c'est ça tout le sens de la prédication que j'ai donnée la fois passée. Quand je dis, je ne sais plus, c'est le titre avec la vraie liberté, là, j'ai plus. La réalité, c'est quoi? C'est que si je veux vraiment vivre dans ma liberté chrétienne, je veux vraiment profiter de ma liberté chrétienne, je ne peux pas faire autrement que d'avoir le Saint-Esprit comme mon partenaire. C'est une liberté que seul je ne peux vivre pleinement que par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la vie, vivre ma liberté selon Dieu, pas selon moi. Sinon, je retourne à la chair. Ça, c'est la portée de ce texte. Et donc, le Saint-Esprit, pour notre vie chrétienne, la vie chrétienne se vit par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, avec le partenariat du Saint-Esprit. C'est lui notre compagnon de tous les jours pour notre vie sur la terre, sur notre pèlerinage. Voilà. Maintenant, Paul va vouloir appliquer pratiquement cet ensemble de choses que je viens de présenter. Il va vouloir dire, mais concrètement, comment vivre ça? Concrètement, à quoi? Comment vivre? Comment profiter de tout ça? Et c'est là que Paul, au chapitre 6, introduit une dimension qui est celle où il appelle le chrétien à vivre une autre fraternité avec ses frères et sœurs. Je dis bien une autre fraternité avec ses frères et sœurs. Ce n'est plus la même fraternité que la fraternité humaine. En tant qu'homme, nous sommes frères et sœurs, moi j'ai mes frères et mes sœurs, c'est pas le même rapport. Parfois, quand on est tout petit, vous avez vos frères, vous rigolez, vous jouez, c'est chouette, c'est gai. Et puis quand vous grandissez, vous vous rendez compte que vous commencez à avoir des différences. Votre frère va épouser une femme qui peut-être ne vous aime pas trop et qui va faire en sorte que la distance se fasse. Ou votre sœur, hein, inversement. Il n'y a pas que les femmes qui sont entre guillemets mauvaises, les hommes aussi. C'est un rapport où tout d'un coup, vous changez parce que en grandissant, vous commencez à avoir d'autres influences. Bref, humainement parlant, certaines fraternités, ça tourne à la catastrophe. Je parle même pas de toutes les bagarres qu'il y a parfois autour de l'héritage, autour des biens. Qu'est-ce qu'on peut se taper pour les biens? Une autre fraternité. Une autre fraternité est la solution pour vivre cette vie de liberté à laquelle Christ nous appelle par le Saint-Esprit. C'est le sens de ma prédication ce matin. J'espère que je vais pouvoir aller vite et bien avec ça. Je vais présenter trois domaines dans lesquels on peut vivre cette autre fraternité, cette autre manière de vivre ensemble, cette autre manière de sublimer nos relations, de les rendre meilleurs. Trois domaines. Et nous allons suivre le texte. J'aime bien, moi, prêcher comme ça. C'est plus simple. C'est pas que j'invente des choses de ma tête et ça vient comme ça coule. Non, j'aime bien prendre appui sur le texte, la parole de Dieu, et rester dans le texte, la parole de Dieu. Premier domaine dans lequel nous sommes appelés à vivre une autre fraternité, à sublimer nos relations fraternelles, à vivre un peu mieux notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Verset premier. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ces deux premiers versets, c'est le premier domaine. Quel est ce domaine? C'est le domaine de la chute, de l'erreur, du péché des autres. Paul exhorte les chrétiens à développer une attitude et un comportement de compassion et d'amour à l'égard des autres croyants. Que fait l'homme charnel face aux erreurs, aux faux pas des autres? Que faisons-nous en tant qu'homme charnel? Eh bien, on se moque de la personne qui a fait une erreur. On rigole de lui. Eh bien, on le critique. On parle de lui derrière le dos. Qu'est-ce qu'il est? Il est bête, hein, ce gars. Comme c'est pas possible, hein? Et on rigole. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On lui fait des reproches. On vient l'engueuler. On lui crie dessus. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On le rejette. On le fréquente plus. On ne veut pas de lui. On le laisse tomber. Les erreurs sont impardonnables dans notre société. Les gens n'ont pas le temps de faire attention aux fautes et aux erreurs des autres. Mais que dit ce texte? Le chrétien conduit par le Saint-Esprit et qui a un autre comportement, eh bien, que doit-il faire? Eh bien, il doit aussi regarder à l'erreur de l'autre. Il doit chercher à le redresser. Redresser son frère avec douceur. C'est ce que le texte dit, n'est-ce pas? Redresser, ça veut dire l'aider à se relever. Ne pas le laisser sur le mauvais chemin, dans la mauvaise pente, mais l'aider à le ramener, le rétablir dans le bon chemin. Et le faire dans un esprit de douceur, ça veut dire sans passage en force. Je trouve quelqu'un qui fait des bêtises, je lui dis, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Pas des menaces. Il faut que la personne en arrive à sa propre conclusion. Avec l'échange, dire, oui, je me rends compte que, oui, là j'ai commis une erreur, je vais changer. Je vais demander à Dieu. Et parfois, même a dit, s'il te plaît, prions ensemble pour que Dieu m'aide à résoudre cette erreur-là. On doit le faire avec un esprit de douceur, sans violence, sans pression, sans sentiment de supériorité. Hé, hey, moi je suis bien, toi t'es mal, alors écoute-moi, tu te tais, moi je sais. Ah, vous savez, moi j'ai l'expérience, dans la vie, moi j'ai tellement connu des choses que je vais te dire un peu comment tu dois faire. C'est pas du paternalisme, c'est pas de la condescendance, c'est du compagnonnage. C'est mon compagnon de route. C'est quelqu'un qui marche sur la même route que moi. Ce qui lui arrive peut m'arriver à moi aussi. Alors, quand je l'aide comme si je m'aidais moi-même. Être un frère pour son frère, c'est aussi être là quand il en a besoin et l'être là quand personne n'est plus là. On doit le faire avec un esprit de douceur, mais je précise ici que il ne s'agit pas d'un frère ou d'une sœur qui vit dans le péché. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de ça. Regardez bien le texte. Il s'agit de quelqu'un qui a fait un faux pas, qui a pris un... boum, il est tombé. Mais ce n'est pas quelqu'un qui s'installe dans le péché, hein, et qui est content de vivre sa vie de péché. Là, c'est une autre solution. Il s'agit de quelqu'un qui fait une erreur. Et vous voyez cette erreur. Vous voyez qu'il est en train de commettre une erreur. Vous découvrez que la direction dans laquelle la personne va là, c'est pas bon pour la personne. Alors, il faut l'aider. En le faisant, bien sûr, le texte nous recommande quand même de se garder d'un esprit de supériorité, de se garder de se mettre soi-même en valeur, parce que ça, c'est une tentation dans laquelle on peut tomber. Ah, t'as vu ton péché? Mon gars, je t'ai aidé, mais t'es quand même nul, hein? Moi, je suis meilleur, hein? Ça vous fait tomber dans l'orgueil, dans la tentation de croire que vous êtes le sauveur de l'humanité. Bien sûr, mes amis, je précise une deuxième chose avant de passer au deuxième domaine. Il s'agit des situations qui ne doivent pas vous dépasser, vous. Si je vais aider quelqu'un, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne faut pas rester dans une situation compliquée et dire, « Pasteur, je tiens le coup, je l'aide. » Même si... Non, si ça devient une situation compliquée, ayons le discernement tout de suite. Cherchons le niveau plus haut. Cherchons quelqu'un qui peut faire un peu plus que nous. Ne commençons pas à prendre un fardeau pour toute une vie et un fardeau qui est trop lourd pour nous. Ici, c'est vraiment une aide ponctuelle. Je vais voir la personne, je vais l'aider, je fais un petit bout de chemin avec, mais ce n'est pas, je ne fais pas le pasteur avec. Je ne fais pas celui qui fait la cure d'âme avec. Je ne fais pas la relation d'aide avec. C'est juste quelqu'un que je vais voir pour avertir et pour aider à se rétablir, à se remettre dans les voies du Seigneur. Derrière ça, j'aimerais aussi que vous puissiez comprendre deux choses importantes. Premièrement, être chrétien, c'est en quelque sorte être aussi un peu le gardien de mes frères et de mes sœurs. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour prier les uns pour les autres, pour nos fautes, nos erreurs. Nous ne sommes pas là pour nous juger les uns les autres, mais nous sommes là pour pleurer au bas de la croix en faveur de quelqu'un d'autre, en faveur d'une personne qui a des faiblesses, qui a des difficultés, pleurer pour cette personne jusqu'à ce que Dieu lui accorde aussi grâce. C'est ça notre rôle. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que ce texte, et c'est l'esprit général de l'épître aux Galates, c'est toujours cette frontière entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. En agissant de la sorte, nous agissons comme des chrétiens spirituels. C'est pour ça que le texte commence avec « Vous qui êtes spirituels ». Deuxième domaine. Ou plutôt, peut-être juste pour terminer, quelle est mon attitude, quel est mon comportement fraternel quand je découvre une faute involontaire chez l'autre? Comment est-ce que j'agis? Je l'abandonne? Je laisse tomber, je dis rien parce que j'ai peur que si je dis, on va dire que j'ai dit. Est-ce que je vais voir la personne? Est-ce que je l'aide? Je prie pour elle? Deuxième domaine, c'est le domaine qui commence au verset 3. Non, oui, verset 2, pardon. Ah oui, c'était le verset 1 seulement, hein? Premier domaine. Deuxième domaine, le verset 2, pardon, excusez-moi. Du verset 2 au verset 5. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Deuxième domaine, c'est le domaine de l'entraide matérielle, l'entraide spirituelle, l'entraide fraternelle. Encore un domaine où il y a à trancher entre l'homme spirituel et l'homme charnel. Dans le monde, c'est chacun pour soi. C'est marche ou crève. Tu as tes problèmes, tu les gardes pour toi, tu les gères comme tu peux, mais c'est pour toi. Viens pas me casser les pieds avec ça. Dans le monde, c'est l'individualisme qui domine. Moi, j'ai fini même par être tenté à l'idée que je me demande si l'individualisme n'a pas le visage d'un démon. Dans le monde des chrétiens, ce que Dieu demande, c'est que la loi du Christ puisse s'accomplir. Et comment s'accomplit la loi du Christ ici dans ce texte? Elle s'accomplit quand nous portons les fardeaux les uns des autres. Il s'agit des fardeaux matériels. Attention, ici, il ne s'agit pas des fardeaux spirituels. Il s'agit des fardeaux surtout à caractère matériel. Bien sûr, quand il y a des soucis aussi avec, hein, matériel au sens vraiment super large. Porter des fardeaux. Dans le premier, dans, ici vraiment, c'est des fardeaux tout à fait matériels, les soucis, l'indigence, les problèmes, financiers, les logements, les déplacements, etc., les coûts par rapport à des problèmes de logistique, des choses comme ça, des choses concrètes, quoi. Porter un fardeau sous-entend prendre un poids. Supporter un poids, quelque chose qui pèse. C'est pas, quand on dit porter un fardeau, ça ne veut pas dire, oh, c'est quelque chose de super léger. Dis, porte-moi cette Bible, tu veux bien? Oui, bien sûr, je veux bien te porter cette Bible. Elle ne pèse pas, c'est rien du tout. Porter les fardeaux, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de super, super lourd. Quelque chose que je vais porter durement, durement. C'est pas facile. Il dit porter les fardeaux. Les uns des autres. Les uns des autres. Ça ne veut pas dire que c'est toujours les mêmes qui portent les fardeaux et les autres qui leur donnent à porter des fardeaux. Ça veut dire qu'il y a une entraide. Chacun à son tour. On s'entraide. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez le poids avec quelqu'un. Porter le poids de quelqu'un. Faire du problème de l'autre mon problème. Et travailler à l'aider à le résoudre. Travailler à l'aider à le résoudre. Un chrétien n'abandonne pas son frère dans les besoins. Sauf si lui-même est coincé. C'est ça que l'apôtre prend soin aussi de dire. Attention. Verset 5, car chacun portera sa propre charge. La limite de mon aide de l'autre, c'est que moi-même je ne sois pas mis en danger quand j'aide l'autre. Ça, c'est le texte qui le dit comme ça. Mais porter le fardeau de l'autre, c'est important. C'est travailler à cela, pas lâcher, mais travailler. Je sais que nous autres, les évangéliques, et merci au Seigneur qu'il en soit ainsi, nous savons faire cela, nous le faisons spontanément, et vraiment que tous ceux qui font cela à l'égard des autres soient vraiment bénis. Nous devons cependant nous aider les uns les autres, mais sans oublier d'assumer nos propres responsabilités. Je peux demander de l'aide à quelqu'un pour venir prendre mes enfants et les déposer à l'école, mais je ne vais pas demander à quelqu'un d'éduquer mes enfants à ma place. Vous comprenez la différence? Il y a les fardeaux des autres, il y a la charge que je peux porter pour l'autre, mais il y a aussi ses propres responsabilités qu'il doit assumer par rapport à sa vie. C'est pour ça, vous voyez, le spirituel, la différence avec le charnel, c'est que le spirituel, nous devons responsabiliser les gens. Les gens doivent être responsables de leur propre destin, conduire leur vie selon Christ. Un fardeau. Verset 2, c'est le fardeau. Hein, porter les fardeaux les uns des autres. Le verset 5, c'est charge. Et un des auteurs que j'ai lu disait que la différence, c'est quoi? Le mot fardeau sous-entend un poids encombrant pour nous, mais que nous acceptons volontiers de porter. Tandis que une charge, c'est comme les militaires, quand ils s'entraînent ou quand ils vont en guerre, ils ont un sac au dos. Ce sac au dos, c'est important pour eux. Sinon pas ce sac au dos, c'est un sac qui les aide à survivre. Parce qu'il y a tout dedans. Tout est prévu dedans pour faire face aux situations diverses auxquelles ils sont confrontés. C'est un peu cela. Nous avons notre charge à nous. Nous avons notre sac aussi. C'est le nôtre. Ça nous appartient. C'est pour nous. C'est pour nos besoins. C'est pour faire face à nos besoins à nous. Et donc, nous devons trouver le bon équilibre. Mais le deuxième domaine, comme je l'ai dit, c'est le domaine de l'entraide matérielle. Soyons ces chrétiens qui voulons faire du bien aux autres sur le plan matériel, qui voulons combler les autres sur le plan matériel, qui ne laissent pas les gens en rade sur le plan mais qui les aide réellement. Quelle est ma philosophie? Quelle est mon attitude par rapport à ça? Quelle est ma philosophie? Comment j'utilise les biens que Dieu m'a donnés? Comment est-ce que je vis avec mes biens? Est-ce que mes biens sont-ils des moyens par lesquels les autres sont comblés? Question. Troisième domaine, dernier, c'est le domaine de l'avancement du royaume de Dieu. Versets 6 à 10, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable, au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers nos frères en la foi. Ça, c'est la conclusion finale de l'ensemble. Troisième domaine, le domaine de l'avancement du royaume de Dieu. Dieu s'attend à ce que je participe matériellement à l'avancement de son royaume, que je mette mes biens, mes moyens matériels pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu s'attend à ça. Il ne s'agit pas d'une obligation. Il ne s'agit pas d'une quelque chose que l'on nous force à faire. Je regrette beaucoup que certains pasteurs, certains prédicateurs, certaines églises, je regrette beaucoup que l'on finisse par faire croire aux chrétiens que quand il ne donne pas sa dîme, quand il ne donne pas son offrande, quand il ne participe pas à l'œuvre de l'Église, il est maudit. Je regrette beaucoup. Je regrette aussi tous ceux qui disent « quand vous donnez, vous êtes bénis ». Oui, mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, et surtout dans le contexte de l'Épître aux Galates, c'est librement que je dois faire tout ce que j'ai à faire pour Dieu. C'est la réponse d'amour que je donne à Dieu. Je donne à Dieu parce que j'aime Dieu, parce que je veux que son travail avance. Je ne donne pas parce que j'ai peur. Il n'y a pas un taiseur là pour me... Non, il n'y a pas un truc pour me dire « sinon je suis... » Non, il n'y a pas une obligation. Il y a juste un devoir que je m'oblige à moi-même. Et ce principe spirituel, cette façon d'agir, on agit selon un principe spirituel qui est énoncé dans ce texte, qui dit que on ne récolte que ce que l'on a semé. Ma façon de donner pour l'œuvre de Dieu montre mon degré de reconnaissance, ma maturité, mon amour pour Dieu. Plus j'aime Dieu, plus je vais donner. Juste ou pas? Et la bénédiction découle de cette disposition du cœur. Dieu ne me bénit pas parce que j'ai accompli un devoir. Dieu me bénit parce qu'il voit mon cœur. Il voit que c'est un cœur généreux qui a donné librement, sans contrainte. Et parce que j'ai donné librement, sans contrainte, avec un cœur bien disposé, alors Dieu me bénit parce que c'est sa promesse. Je ne donne donc pas pour obtenir de Dieu, mais je m'attends à être béni quand je fais un don, une offrande, un sacrifice pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance. Je m'attends à être béni. Si du fond de mon cœur, je le fais avec une bonne disposition. Et Dieu connaît nos cœurs. J'aimerais juste vous lire les commentaires d'un commentateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Warren Wiersbe. Je l'aime beaucoup, c'est un des gars que j'aime bien me référer. Il dit ceci: mais Dieu nous a également dit de veiller à l'endroit où nous sémons. Et c'est de ce principe que Paul traite ici. Donc on récolte ce qu'on a semé. C'est ce principe que Paul traite ici. Il considère nos possessions matérielles comme la semence et il entrevoit deux terrains possibles, la chair et l'esprit. Nous pouvons utiliser nos biens matériels pour favoriser la chair ou favoriser les choses de l'esprit. Mais lorsque les semailles sont terminées, nous ne pouvons plus charger la, nous ne pouvons plus changer la moisson. L'argent semé pour la chair produira une moisson de corruption. L'argent est parti et ne peut plus être jamais réclamé. L'argent semé pour l'esprit, eh bien, produira la vie. Et dans cette moisson, on trouvera des graines qui pourront être plantées pour une autre moisson. Et ainsi de suite jusqu'à l'éternité. Si seulement tout croyant considérait sa richesse matérielle comme une semence et la plantait comme il faut, il n'y aurait pas de lacune dans l'œuvre du Seigneur. Malheureusement, de nombreuses semences sont gaspillées à des choses charnelles et ne pourront jamais apporter de gloire à Dieu. Ça, c'est la réalité. Nous devons savoir où nous sémons. Nous voulons s'aimer pour le Seigneur ou nous voulons s'aimer pour le monde. Trois domaines où nous sommes appelés à ne pas nous lasser de faire le bien. Trois domaines où nous sommes appelés à faire le bien et particulièrement à l'égard de nos frères et sœurs. Le domaine spirituel, qui est le domaine où nous avons à nous encadrer les uns les autres pour que nous puissions vivre ensemble spirituellement, être forts, être attachés à Dieu, aimer Dieu. Ce domaine spirituel où j'ai à veiller sur mon frère dans ses difficultés au niveau spirituel. Deuxième domaine où je ne dois pas me lasser de faire le bien, c'est le domaine de la détresse. Quand l'autre est en souffrance, est en problème au niveau matériel, je suis là aussi pour lui, pour l'aider. Troisième domaine, c'est dans le domaine où l'œuvre de Dieu doit avancer, l'avancement du royaume de Dieu, les besoins réels dans l'avancement du royaume de Dieu. Là aussi, j'ai aussi à montrer, à manifester le bien, montrer que je ne me fatigue pas de faire le bien pour la gloire de Dieu. Conclusion, je vais juste conclure et je vais revenir sur les trois domaines en les illustrant différemment, simplement pour conclure. Premier point, Dieu s'attend à ce que nous soyons des gens de bien, des gens qui marquent les vies des autres, des gens qui sèment l'amour à travers les biens qu'ils font aux frères et aux sœurs. Bien sûr, toutes sortes de biens. Je précise ici que concrètement, d'après ce texte, nous pouvons le faire en étant une oreille attentive à la souffrance spirituelle de l'autre. Nous pouvons être cette personne qui reste là avec l'autre quand tout le monde s'enfuit, quand tout le monde condamne, quand tout le monde lâche. Nous pouvons être ce frère qui tire son frère, sa sœur, cette sœur, vous comprenez, qui tire l'autre de sa boue vers Christ. Première chose. Deuxième chose, nous pouvons le faire aussi en étant un compagnon de route, une espèce de touring de secours qui vient dépanner le frère ou la sœur dans la détresse sur l'autoroute de sa vie. Nous sommes tous en route, en pèlerinage. Troisième chose, nous pouvons le faire aussi enfin en étant une espèce de mécène pour l'œuvre de Dieu. Un banquier intelligent qui place son trésor là où il sait que les voleurs ne peuvent percer, ni la ruine ne peut venir abîmer. Un bon banquier qui va chercher plutôt à s'amasser les trésors au ciel. N'est-ce pas? Dans tous les cas, ne nous lassons pas de faire du bien autour de nous. Demandons à Dieu qu'il nous vienne en aide par son Saint-Esprit. Cet Esprit Saint qui est ce merveilleux partenaire. Demandons-lui de nous aider dans cette marche. Amen.